les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Au sommaire aujourd'hui, un événement dans le rayon des bandes dessinées avec le nouvel album d'Astérix. La fille de Vercingétorix est déjà tirée à 5 millions d'exemplaires et il va forcément passer devant vous à un moment cet album. Astérix a 60 ans, Didier Conrad et Jean-Yves Ferry, les nouveaux auteurs de la BD culte, sont avec nous pour parler du phénomène Astérix et de leur façon d'avoir pris la relève sous le regard bienveillant d'Uderzo, que vous entendrez également. Un autre événement, le nouveau roman de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, qui nous plonge dans le petit monde des consuls et ambassadeurs qu'il connaît bien. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour.
Vous étiez heureux, vous, quand vous étiez ambassadeur ?
Oui, mais j'étais très heureux aussi quand ça s'est arrêté, on va dire.
Parce que vos personnages n'ont pas vraiment la passion du métier, hein. Tout est calcul et profit.
Oui, bah, je crois que ça fait partie aussi du métier. C'est-à-dire que la passion, c'est pour les gens qui sont à l'extérieur, à l'intérieur, c'est autre chose.
Vous avez été passionné quand même ou...
Moi, j'ai été passionné parce que précisément, ce n'était pas mon métier.
Et
que
oui,
donc,
oui.
J'ai découvert quelque chose. Mais je pense que pour ceux qui sont nés là-dedans, qui ont baigné là-dedans, c'est différent.
C'est plus compliqué, on le verra d'ailleurs avec vos personnages. Et Aurel, votre fameux bonhomme qui ressemble à Columbo. Nous irons aussi en Suisse aujourd'hui avec le nouveau roman de Roland Buty, l'auteur du Milieu de l'Horizon, adapté récemment au cinéma avec Laetitia Casta, publie un roman qui nous interroge sur notre méconnaissance du passé de nos parents.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex, comme toujours, avec nous. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Belgique dans la librairie La Licorne, en pleine forme. Elle slalome entre les virus de l'automne et tout va bien pour elle. Au Canada, c'est Josiane Nétourneau qui est de retour. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Montréal dans la librairie du Square. Nous serons très bientôt à Montréal pour le salon du livre de la ville qui se tiendra fin novembre et nous serons en public. On compte sur vous, on espère que vous serez nombreux à venir assister à cette émission. Deux libraires en plateau ensemble pour notre première séquence, la librairie verte avec Mathieu Colombe qui représente la France et Dominique Bressot pour la Suisse. Bonjour à vous deux.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien ?
Toujours.
Allez,
toujours.
On commence avec la librairie verte donc. Et régulièrement cette saison, nous interrogeons le monde de l'édition sur la question de l'environnement. Aujourd'hui, notre regard se porte du côté des libraires. Comment l'environnement et l'écologie ont-ils influencé leur travail en librairie ? Mathieu Colombe et Dominique Bressot, donc, comment ça se passe chez vous en France et en Suisse ? Mathieu ?
Ben alors déjà en France, il y a un truc qui s'est passé il y a relativement peu de temps, c'est qu'on n'a plus le droit de donner des sacs en plastique aux clients. Donc voilà, maintenant, à la demande du client, on va le fournir en sac en papier ou pas. Alors on a encore un problème, on n'aime pas les vendre ces sachets, donc on continue à les donner parce qu'on trouve ça... On trouve pas ça normal de les faire acheter du jour au lendemain.
Oui, les supermarchés les vendent.
Voilà.
Et font des profits d'ailleurs dessus.
Oui, c'est ça.
En passant, hein. C'est la grosse arnaque de cette décennie.
C'est une bonne manière de faire du profit, si étant dit. Mais bon. Donc, du coup, nous, on les donne donc à la demande. Et sinon, d'un point de vue écologique pur, ce qu'on fait depuis quelques années maintenant, à l'initiative de mes collaborateurs, c'est qu'on ne met plus la clim en été, notamment.
Ah, d'accord.
Sauf quand vraiment, c'est pas possible. Mais.
D'accord. Dominique Bressot, en Suisse, qu'est-ce qui change ? Alors c'est vrai que, comme le dit Mathieu, la librairie est un gros consommateur de plastique, les emballages aussi, hein,
aussi.
Pas que les sacs. Est-ce que ça change un peu ça chez vous ?
Ça commence à changer parce qu'en fait les gens demandaient des sacs en plastique avant et maintenant ils en veulent surtout pas. Donc ils prennent éventuellement des sacs en papier ou pas de sac du tout.
Et vous constatez aussi une augmentation d'ouvrages en papier recyclé ?
Non.
Ah non ?
Non, j'ai pas constaté ça.
Mathieu Colomberie, pourquoi ?
Ah, pareil.
Et pourtant, il y a de plus en plus d'ouvrages sur l'écologie.
Oui.
Oui.
Qui sont édités en Chine ou ailleurs,
oui.
C'est ça ?
Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est le côté un peu fou, mais ils arrivent cerclés dans du plastique en même temps. Donc bon, c'est pas vraiment très grave, hein, s'ils sont.
Avec à peu près 2 tonnes de carton autour.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors quand on est libraire ? Est-ce que vous avez un rôle à jouer ? Est-ce que vous pouvez influer là-dessus ? En disant aux distributeurs, non, on veut pas d'emballage, on ne veut pas de autant de carton, autant de plastique.
Ça me paraît très compliqué à mettre en place. D'autant plus qu'il y a plusieurs acteurs, en fait, dans la chaîne du livre. Et donc ils ont quand même pas mal de trajets à faire. Moi, j'aime bien l'idée qu'ils soient protégés. Donc tant qu'à faire, faire, qui soit pour des gens du carton plutôt que dans autre chose, oui, ça me va.
Dominique Bressot.
Le distributeur, si je lui dis de m'envoyer moins de cartons, je doute vraiment qu'il m'obéisse ou qu'il m'écoute. Par contre, le carton, au départ, je le mettais à la déchetterie et puis voilà. Et maintenant, je dis aux gens, vous avez besoin de déménager. Par exemple, tous les gens qui déménagent, c'est des cartons superbes. Mais parce qu'ils sont très solides et puis vous pouvez mettre autant de bouquins que vous voulez dedans. Donc, ils viennent les récupérer chez moi, ils m'annoncent un déménagement et hop.
Voilà une idée d'ailleurs, vous avez raison, parce qu'on cherche tout le temps des cartons pour les déménagements.
Voilà.
Parfois même on les achète, c'est absurde, et vaut mieux aller chez son libraire.
Faut aller chez le libraire.
C'est une nouvelle idée. Mathieu Colombe.
Oui, je venais de penser une autre chose aussi, c'est qu'on pourrait aussi demander aux éditeurs de mettre plus de livres par carton, mais on est limité par le poids maximum du carton. Donc non, c'est un truc qui peut même pas marcher.
Bon, merci à tous les deux. Faites des efforts, c'est important, et essayez de trouver des solutions. À partir de ce samedi, juste à noter que c'est le retour de la librairie francophone version télé sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV, sur TV5 Monde tous les mois. Et on vous retrouvera d'ailleurs dans cette émission, Dominique Bressot, puisque vous représentez la Suisse dans cette version télé. Merci à tous les deux. Vous restez bien sûr tout au long de l'émission avec nous. Et Jean-Christophe Ruffin donc est avec nous pour Les Trois Femmes du Consul, paru chez Flammarion, deuxième volet de votre série de polars, Jean-Christophe, très différent de vos grands romans publiés chez Gallimard. On peut être un peu dérouté car vous êtes un grand écrivain, vraiment. Et là, vous tentez l'expérience du polar façon grand public, façon roman amusant et accessible. Vous l'assumez, ça ?
Oui, je l'assume parce que, si vous voulez, je les place pas du tout dans la même catégorie. Mais c'est important aussi de pouvoir parler du présent. Et c'est une manière pour moi de pouvoir raconter des choses dont j'avais été le témoin justement dans mes expériences diplomatiques, d'ambassadeur, que je ne peux pas forcément raconter directement parce qu'il y a une question de secret, etc. Et donc en créant ce petit double, c'est un amusement, je le fais sans prétention et je demande par avance l'indulgence du public et du jury, mais moi ça m'a amusé, j'espère que ça amuse ceux qui le lisent, mais il n'y a pas d'autre ambition derrière.
Bon, on est au Mozambique, avec un vieil homme influent aux allures de colon qui va être retrouvé mort dans sa piscine. Le consul Aurel va prendre en charge l'enquête, le vice-consul, car la première épouse de cet homme est accusée du meurtre. Elle est française et elle a le droit à la protection consulaire. On doit s'occuper des ressortissants français qui sont accusés, qui ont affaire aux tribunaux dans un pays étranger.
Moi, j'ai été passionné dans ce métier diplomatique par cette dimension consulaire. C'est pas forcément ce que les diplomates préfèrent. Ils préfèrent s'occuper de grandes politiques et tout ça. Moi, j'ai trouvé que cette dimension-là, c'est-à-dire s'occuper finalement des gens qui perdent leurs papiers ou qui tombent dans des traquenards, qui peuvent se faire voler, parfois tuer, c'est quelque chose de passionnant. Et dans le premier roman consacré à cette petite série, avec ce petit personnage, j'avais utilisé d'ailleurs un...
C'est suspendu de Conakry.
Oui, j'avais utilisé un événement que j'avais eu à traiter là-bas, qui était un Français assassiné sur son bateau. Bon, là, en fait, j'ai séjourné dans un hôtel dans un autre pays d'Afrique, donc je l'ai décalé pour brouiller un peu les pistes, où il y avait exactement tous ces personnages.
Bon, on va s'arrêter là, Jean-Christophe, sur l'histoire, finalement, cette histoire de meurtre, car il y a bien plus intéressant dans ce livre, selon moi. On va laisser juste la parole à deux libraires qui vont nous dire, justement, s'ils ont aimé le Ruffin polar, avec Déborah Damblon, qui est en Belgique, Déborah.
Ben oui, moi j'ai envie de dire, c'est incroyable Monsieur Ruffin, vous êtes partout et même là où on vous attend pas. Alors bon, d'accord, cette fois vous avez laissé sous-entendre Emmanuel, c'est pas le Ruffin de ma vie, mais ça a quand même été un grand grand plaisir de lecture.
J'ai rien dit.
J'ai été contente moi de... J'ai dit sous-entendre Emmanuel.
J'ai même pas.
Si, si.
Allez-y.
J'ai été vraiment contente moi de retrouver Aurel. J'ai passé un très bon moment, puis comme chaque fois j'ai voyagé, j'ai découvert des choses. Et puis là, vous savez ce que je suis en train de faire ? Juste attendre la prochaine fois que vous me surprendrez.
Ils me connaissent trop, ces libraires. Jean-Christophe me connaît aussi, parce qu'il me regarde depuis tout à l'heure. Josiane Letourneau est au Canada. Vous avez adoré ce roman, vous aussi, je crois.
Mais oui, mais je dois avouer en fait que c'était ma première rencontre avec Aurel Timescu. Mais quel personnage inédit. Avec lui, je suis passée du rire à l'exaspération, avec quelques moments d'attendrissement, ou presque. Et à l'image de son héros, votre roman aussi, c'est un mélange intéressant. J'ose y voir une originale combinaison de chroniques satiriques et de polar. Le tout rehaussé par votre plume qui révèle un indéniable sens de l'humour décalé et de deuxième, voire troisième degré.
Voilà, on va voir avec beaucoup, les deux autres tout à l'heure. Il y a votre analyse, Jean-Christophe, des coulisses de la diplomatie française. C'est ça qui est fortement intéressant parce que, évidemment, on le sait, vous avez été ambassadeur et il y a beaucoup de vérités camouflées dans ce roman, Jean-Christophe Ruffin. Parlons d'Aurel Timescu, un agent catastrophique qui veut en faire le moins possible. Et personne n'en veut de ce gars-là. Tout le monde le connaît, mais il est impossible de le licencier.
Eh ben ça existe, hein, ça existe. Ben oui, il est titulaire. Alors, c'est-à-dire, en France, ça, c'est le Graal. C'est quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes titulaire. Bon, même si vous voulez pas faire grand chose, on ne peut pas vous mettre à la porte. Alors lui, il passe d'un poste un peu minable à un autre. Et puis, en fait, s'il ne veut rien faire, c'est pas parce qu'il est paresseux, c'est parce que, au fond, il a une assez haute idée de sa vocation qui est plutôt musicale, en fait. Voilà, c'est un artiste. Et puis, de temps en temps, ben, il tombe sur une énigme, il tombe sur quelque chose, surtout une injustice. Alors ça, ça le révolte. Et là, cet homme que tout le monde méprise ou pense un peu nul et dans son coin, eh ben, il révèle, et ça, moi, ça me touche beaucoup parce qu'il révèle des talents cachés qui sont, au fond, son intelligence, sa générosité. Et ça, j'aime bien cette idée que voilà, derrière des personnages comme ça, parfois, il y a des trésors.
Il a des trésors et c'est un artiste, c'est vrai. Il a des allures de Columbo, on pense beaucoup à Columbo. Il est assez drôle et fait tout pour décourager ses supérieurs dès qu'il arrive sur un poste. Il joue des airs de piano quand il rentre chez lui, les Beatles notamment. Yesterday qui va révéler quelque chose en lui, on va pas tout raconter. Mais le consul, malgré tout ça, va miser sur lui. Alors on a demandé à Roland Buty de lire un extrait qui évoque ce lien. Bonjour Roland Buty.
Bonjour, bonjour.
On vous retrouvera tout à l'heure, vous êtes un auteur suisse avec un livre qui a séduit nos libraires. Je vous le dis déjà parce que voilà, c'est, on va ménager le suspense, mais c'est un livre très intéressant et très poignant. Alors, il y a un passage dans le livre de Jean-Christophe Ruffin qui se mouche un peu parce qu'il a un gros rhume, Jean-Christophe,
ouais,
ça va, il est très malade aujourd'hui, qui révèle ce passage, finalement, l'essence même de ce que sont ces personnages. Vous allez lire sur la musique de Yesterday, je vais vous faire un signe, d'accord ?
Le drame avec les jeunes, c'est qu'ils croient en l'humanité. Mortereau, plus qu'aucun autre de son âge. Éduqué par des parents enseignants à Sens, le jeune Didier avait tété dès sa naissance le lait doucereux d'un marxisme tempéré d'humanisme. Il était profondément influencé par Rousseau, auteur auquel il avait consacré son mémoire de lettres modernes. Quand il prit connaissance, trop tard pour le récuser, du dossier d'Aurel, Mortereau mit la carrière chaotique du pauvre réfugié roumain sur le compte de la méchanceté humaine. Il saurait bien, lui, redonner confiance à ce déraciné, probablement blessé par la vie, et en tirer le meilleur. Il prit la décision de le sauver.
La musique de Yesterday, jouée au piano par Dave Gosin, avec cette lecture de Roland Buty, il prit la décision de le sauver. Et c'est ce qu'il va faire, ce consul. Il va le soutenir malgré sa mauvaise volonté flagrante. Et ça aussi, ça existe, de jeunes consuls qui ont envie de sauver certains agents, certains diplomates.
Bah oui, mais ça, c'est le problème des jeunes, c'est qu'en effet, ils se résolvent pas à l'idée qu'il y a des gens qui sont comme ils sont. Mais c'est pareil pour les médecins. Vous savez, moi, j'ai commencé dans la médecine. Parfois, on a envie de changer la réalité des choses. On a envie que les gens soient différents de ce qu'ils sont. Puis, c'est pas forcément possible.
Il y a aussi l'ambassadeur, qui est dans le calcul également. Ne pas faire de vagues pour accéder à un meilleur poste. Les postes africains sont, comme vous l'écrivez, Jean-Christophe Ruffin, concernant en tout cas vos personnages, des purgatoires. Pourquoi des purgatoires ? Pourquoi est-ce moins intéressant d'être dans un pays africain qu'en Chine, par exemple ?
Pas tous, parce que par exemple, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, ou même le Cameroun, sont des grands postes. Mais
vous étiez au Sénégal et en Gambie.
Oui. Mais il y a des petits postes en Afrique, parce que la France s'accroche à une règle qui est d'avoir des ambassadeurs partout. Alors, parfois, ça correspond à une réalité, mais parfois, c'est juste quelqu'un, un homme tout seul, ou une femme, avec son ordinateur, par exemple, je sais pas, au Libéria. Donc, c'est des tout petits postes, si vous voulez. Alors, évidemment, ils sont ambassadeurs, ils sont contents, parce qu'ils ont le titre, mais bah, ils attendent des postes plus gros, c'est normal.
Plus valorisants.
Oui.
Bon, les deux autres libraires qu'il reste, c'est Mathieu Colombe, qui est en France, qui adore les livres de Jean-Christophe Ruffin, et qui aime les polars, donc ça devrait aller.
Oui, ça va plutôt pas mal, sauf que bon, moi j'ai plutôt trouvé que c'est un thriller, mais parlons-en plus tard.
Non, mais ça c'est anglophone, c'est pas possible.
Ah oui, c'est vrai. Mais...
Déjà, ça n'existe pas.
Oh, avec l'accent, c'est un thriller.
Oui, c'est un thriller. C'est deux genres différents.
Un thriller.
Mais en fait, oui, j'aime bien les aventures d'Aurel Timescu. Ce côté Agatha Christie arrosé au vin blanc, la calvitie et la dépression en plus, je trouve ça des plus délicieux. En plus, on se délectera d'une galerie de personnages décrits avec souvent force de vitriol de la part du narrateur. Si l'on rajoute à ça le style de l'auteur avec une massive dose de cynisme obligatoire, on tient un petit peu des plus agréable et bien rafraîchissant en cette fin d'automne.
Dominique Bressoux, fin d'automne, vous êtes optimiste. Dominique Bressoux, j'aimerais bien, fin de l'hiver même. Dominique Bressoux, pour la Suisse, êtes-vous d'accord ?
Oui, complètement. Moi, comme beaucoup de gens, je crois, j'adore les énigmes policières, mais du moment que le sang ne dégouline pas du bouquin, et là, c'est idéal. Une vraie énigme dans un décor exotique, des coupables potentiels à la pelle, un mobile long à se dévoiler et un enquêteur décalé et loufoque. On est dans la tradition des romans policiers type Agatha Christie, en beaucoup, beaucoup plus drôle.
Vous avez séduit les quatre libraires, Jean-Christophe Ruffin.
Écoutez, vous voyez, c'est carton plein, je suis très, très touché. Mais en tout cas, je suis très heureux que vous ayez surtout mis en avant le plaisir, parce que c'est ça. Moi, c'est ça que je veux dans ce livre. Il n'y a pas d'ambition particulière, pas de message, mais
bah quand
j'ai
même,
été
si.
Guidé. Oui, enfin, bah, non, mais si on en tire profit pour apprendre des choses, tant mieux.
Ouais.
Mais je voulais surtout que dans ce genre du polar qui est souvent noir, qui est souvent, alors, avec les Scandinaves de plus en plus sanglants,
ouais.
Moi, je voulais faire je sais même pas si c'est des polars, je pense que vous avez raison, on est peut-être aux frontières du genre, je voulais faire quelque chose de plus lumineux, quoi. Voilà, plus souriant, plus lumineux.
Mais il y a beaucoup de choses, parce que vous évoquez la difficulté de travailler avec le gouvernement en place, dans des pays africains, la corruption, le clientélisme, comme ces Français installés à l'étranger qui se comportent en colons.
Oui, bah alors,
on en croise pas mal d'ailleurs, notamment dans les départements d'outre-mer où c'est encore plus facile pour eux.
Oui, oui.
Ce sont des types infâmes quand on les voit.
Parfois, il y a des gens qui me disent, mais ce hôtelier là qui est mort au début du livre, ça n'existe pas, c'est fini, etc. Bah malheureusement, moi j'ai eu l'idée du livre en étant moi-même pensionnaire, si je puis dire, dans un hôtel comme ça, avec sous les yeux exactement la personne qui m'a servi de modèle pour l'écrire, et c'était il y a un an.
Bon, merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin. Vous restez bien sûr avec nous. Vous êtes chez vous dans la librairie francophone, vous le savez. Les trois femmes du consul, votre livre est paru chez Flammarion. Merci Jean-Christophe.
Merci.
Vous allez pouvoir vous moucher, tousser, tout ça. On va couper votre micro. Je vous ferai un signe quand vous voudrez intervenir. Dans un instant, Astérix, les 60 ans d'Astérix et son nouvel album qui imagine la fille de Vercingétorix. Ce sera avec les auteurs et dessinateurs Ferry et Conrad et la complicité d'Albert Uderzo. Avant cela, voici la chanteuse malienne Fatoumata Diawara. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde. Jarabi tala yoro jana ale mason segima Nderini nderini ngabe disa ni jarabi ma pega nyalo nyala Nderini nderini ngabe disa ne kanu I want to know. I want to know. Jalabi wale
ni so ma da tin na na poliza le gon gbe gbe so ma tin na na poliza fi dire da so ma da tin na na poliza so ko tin na na poliza nin ni mi e jan de zan la
Mata Diawara avec Nterini sur votre radio francophone. La chronique des libraires, première partie avec un coup de gueule et un coup de cœur. Et on commence avec un coup de gueule. Dominique Bressou, très excité en Suisse.
Toujours. Sur certaines couvertures de livres et certains titres. Parce que c'est tout de même ce qu'on voit en premier. Et je regrette quand même parfois, en tendant un livre dont je sais qu'il va plaire à un ou une cliente, la petite moue avec laquelle il ou elle accueille mon choix. Par exemple, Les griffes du passé de Darak à City Edition. C'est un bon roman sur la réconciliation franco-allemande au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais le titre a déjà été utilisé ailleurs et la couverture ne donne vraiment, vraiment pas envie de le lire. Et c'est dommage.
C'est un vrai travail, hein, d'ailleurs, oui. D'élaborer des couvertures. Oui, Jean-Christophe.
Ah oui, moi, je m'occupe de ça.
C'est
les quatrièmes de couverture, les couvertures, tout. Oui, parce que sinon, ça peut partir dans tous les sens.
Elle est un peu bizarre, hein, la couverture des Trois Femmes du Consul.
Oui, mais si vous regardez bien, elle obéit à un certain critère par rapport au premier.
Il y a des codes couleurs.
Alors, évidemment, on n'est pas sûr d'arriver à quelque chose, mais là, on voulait mettre en avant le personnage pour qu'il prenne sa vie indépendamment de l'auteur et tout ça. En tout cas, il faut y penser.
C'est original et ça interpelle. C'est l'essentiel. Allons dans le rayon des bandes dessinées avec Déborah Damblon et un coup de cœur, Déborah.
Ah oui, un coup de cœur, Emmanuel, pour Les deux vies de Pénélope, parce que d'habitude, c'est Pénélope qui attend, d'après la légende. Eh bien, ici, Pénélope, elle est chirurgienne, elle part en mission à Alep, elle va sauver des enfants, et du coup, c'est toute sa famille qui l'attend. Et évidemment, en son absence, tout ce petit monde évolue et se fait une place. Et quand elle rentre, elle sait pas bien où elle en est. Et en plus, c'est difficile pour les autres d'en vouloir à une héroïne. Alors, Pénélope, où est sa vie vraiment ? Au-delà du sujet, cette BD, elle nous donne l'art d'explorer la relativité des situations et de raconter tout en douceur qu'en fait, la vie, c'est pas si simple.
Les deux vies de Pénélope, c'est aux éditions du Lombard. Merci Déborah, on reste dans le rayon des bandes dessinées.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et Astérix fête donc ses 60 ans et un nouvel album vient de sortir en librairie. Jean-Yves Ferry et Didier Conrad sont dans la librairie francophone pour cette occasion. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour.
Bonjour Didier.
Bonjour.
On vous connaît tous les deux avec Retour à la Terre, De Gaulle à la plage pour vous Jean-Yves Ferry, Kid Lucky, Les Innommables avec Yann aussi pour vous Didier. Astérix, ça a été compliqué à reprendre ou... Jamais.
Si. Pas de doute, ça a été compliqué. Parce que quand on vous propose Astérix, vous vous dites qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cette galère, si j'ose dire. Parce qu'en fait, Astérix, il y a eu beaucoup d'albums, il y a beaucoup d'aventures, et elles sont toutes à un certain niveau, quoi. Donc vous dites non, c'est pas possible. Seulement, comme on vous l'a proposé à vous,
ça se refuse pas.
Ça se refuse pas, quoi. Ouais. Vous voulez pas paraître tout à fait ridicule non plus.
Mais ça a été une galère quand même, Didier Conrad.
Oui, parce que c'est pas vraiment reprendre une BD, c'est reprendre un phénomène de société. Ouais. Je sais pas comment on fait ça. Personne ne savait.
Vous avez réussi en tout cas.
Oui. Je sais pas. Il y a des journalistes qui ont dit qu'on nous demandait l'impossible.
Et je pense qu'ils avaient mis en confiance.
Chaque fois, on l'a fait, on dit c'est impossible à faire. Et le prochain, ça va être impossible.
C'est génial.
À chaque fois, oui. Vous avez 2 ans.
Oui, c'est ça. C'est déjà pas mal, 2 ans.
C'est en fait Mission Impossible. Pareil, ils réussissent toujours, mais normalement, c'est pas possible.
Bon, La fille de Vercingétorix, c'est le 38e album tiré à 5 millions d'exemplaires. C'est le 4e signé Conrad et Ferry, La Relève du Derzo et Goscinny, donc. Et pour être franc, on était un peu dubitatif au début, hein, nous-mêmes, ici à la librairie. Même l'éditeur, paraît-il, était un peu tendu. Seul Uderzo a vraiment cru en vous et vous a laissé presque totale liberté. Et il avait raison parce que ce nouvel album, là, il est génial.
Eh ben voilà.
C'est une question.
C'est une question.
Non, non, c'est en fait la question et la réponse en même temps.
Ah ben on est d'accord avec vous. Mais disons que ce dernier album est un peu plus détendu.
C'est ça, il est plus fluide, je trouve, non?
Il est plus fluide, et justement parce que c'est le 4e et que peut-être on est un peu moins tendu et que les enjeux sont
moins crispés,
un peu moins forts.
Vous avez eu peur de la critique ou pas, Didier Conrad?
Pas vraiment, parce que à l'époque, déjà, Uderzo et Goscinny avaient été assassinés traditionnellement sur des albums très bons qu'on savait qu'on n'arriverait pas à faire.
Quasi à chaque fois, oui. Et le grand fossé, vous savez, quand Uderzo a repris tout seul Astérix après la mort de son ami Goscinny, qu'il a publié Le Grand Fossé, ça a été d'une violence incroyable. Il nous en avait parlé ici même, et pourtant c'est l'un des meilleurs albums d'Astérix aujourd'hui.
Ben oui, c'est comme ça, vous savez, c'est un phénomène de société, donc c'est normal que les journalistes perdent complètement la boule en parlant. Quoi. Je vois même là, on a des articles où des gens nous disent, ben, on le lit même pas. C'est plus...
Ah bon?
Ah oui, c'est du style... On s'en fiche, on va pas en parler. Pourquoi faire? Donc, c'est vraiment une relation presque viscérale, parce que c'est impossible de pas en parler normalement. Donc, pour vous, ça vous titille. Si, comment? Si je veux, je ne parle pas.
Je vous sens un peu nonchalant par rapport à ça.
Non, c'est parce qu'il est d'origine suisse.
Ouais. Voilà, c'est après mon côté.
On salue tous les éditeurs suisses, bien sûr.
Non, mais de savoir que Goscinny lui-même était critiqué, ça vous détend.
Ouais. Bon, je vous propose d'entendre Albert Uderzo. Il s'exprimait dans la librairie francophone au moment où vous avez été choisi pour prendre la relève. Et il parle de vous, écoutez. Est-ce que vous êtes serein, Albert Uderzo? Est-ce que vous vous dites maintenant, comme ça a été le cas pour Lucky Luke, auquel Goscinny a participé, vous dites le personnage doit continuer, voilà, c'est un peu le principe des personnages de Goscinny, c'est le cas avec Lucky Luke, c'est le cas avec Astérix, pas de souci. Ou avez-vous un peu d'inquiétude?
Oh, l'inquiétude, c'est peut-être beaucoup dire. Non, ce qu'il y a, c'est que j'étais un peu inquiet parce qu'on a mis pas mal de temps avant de trouver quelqu'un. Le scénario qu'on a trouvé avec Ferry, c'est formidable. Formidable parce que Ferry est un garçon dans l'esprit de René Goscinny. Le dessin, ça a été un peu plus compliqué parce que tout le monde m'a dit que j'ai un style excessivement difficile. Moi, je trouve qu'il est très facile, au contraire, puisque j'arrive à le faire. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu moins d'émules qu'on en a eu, par exemple, Franquin. Franquin a eu des émules de son vivant, d'ailleurs, qui ont travaillé avec lui, dont le fameux Conrad, qui a travaillé avec Franquin.
Donc là, vous les accompagnez?
Alors, je les accompagne, je peux les aider de temps en temps pour leur dire là où il y a des...
Ce qui est rassurant, finalement.
J'espère, oui.
Le fameux Conrad. Il est difficile, le style du Derzo, le dessin?
Oui, il est difficile parce que en plus, il joue les innocents. Mais c'est évident qu'à partir du moment où Astérix a commencé vraiment à marcher, il s'est dit, bon, ben, je vais prendre le temps et je vais creuser la distance avec les autres. Et donc, il a mis le paquet à faire des scènes hyper spectaculaires avec des tonnes de personnages et on peut pas suivre normalement. C'est vraiment trop lourd à faire. Et bon, ben, il est arrivé à faire ça et en plus à être le dessinateur le plus expressif de la profession. Ça, pour arriver à rattraper ça, ça demande énormément de travail.
Et vous avez réussi à rattraper, parce que les scènes spectaculaires, il y en a dans ce nouvel album, sur le bateau pirate. Il y a une bataille incroyable, et ça foisonne de détails. Et j'ai trouvé le dessin très fin, beaucoup plus précis d'ailleurs que vos précédents volets.
Vous savez, le dessin, c'est une question d'œil, donc il faut le voir pour le faire. Et l'œil s'affine avec le temps. C'est pas seulement la main, c'est l'œil, c'est le rapport œil et main, et donc c'est une sorte d'apprentissage. C'est pour ça qu'il faut des albums, quoi. Il faut vraiment des albums pour arriver à acquérir, affiner un style.
Bon, place aux jeunes dans ce nouvel album. Il y a des ados. L'enfance avait été abordée par Uderzo avec le fils d'Astérix en 1983. Là aussi, on avait critiqué parce que nouveau personnage, le fils d'Astérix, etc. Mais vous avez réussi à intégrer de nouveaux personnages tout en restant très fidèle au village et aux personnages cultes de la série. Le poissonnier notamment, le forgeron et les pirates. Il y a une relève comme ça annoncée dans les personnages avec deux gamins, Surimix... Et Selfix.
Alors, Blinix aussi.
Blinix.
Blinix, le fils du poissonnier. Selfix, le fils du forgeron. Donc, ce qui est rigolo, c'est d'imaginer à ces deux personnages des ados alors qu'on ne les connaissait pas. Donc, il fallait expliquer pourquoi on ne les a pas vus depuis tant d'albums. Donc, on apprend qu'ils étaient en fait en train de faire leurs études à Condat et qu'ils sont en stage d'observation, là, chez leurs parents, péniblement. Et on verra que finalement, ils remettent en cause aussi la vocation, en tout cas l'éducation des deux papas.
Ils sont en révolte.
Ils sont en révolte et ils suivent en cela l'exemple de la fille de Vercingétorix.
Alors, qui va arriver ? Donc, deux lieutenants de Vercingétorix viennent confier Adrénaline, c'est son nom, l'héritière du roi des Arvernes, qui a fédéré une partie des Gaulois contre Jules César, comme chacun sait. Et dans le village d'Astérix, on prononce le nom de Vercingétorix avec discrétion. On dit la fille de Vercingétorix.
Ce qui permet un petit gag.
À chaque fois.
Un petit gag récurrent, puisque chacun de tendre l'oreille et de dire la fille de qui? Voilà, ça revient souvent.
Pourquoi on prononce avec discrétion?
C'est un peu un running gag par rapport à ce qu'avait fait Goscinny dans le bouclier Arverne, où les Arvernes ne prononçaient pas le mot d'Alésia.
Oui.
Et cette fois-ci, c'est Vercingétorix, parce que forcément, son nom est attaché à une défaite et qu'il y a un petit côté tabou autour de son nom.
Didier Conrad, il paraît, enfin c'est pas qu'il paraît, c'est sûr, il y a une division parmi les historiens au sujet de la descendance de Vercingétorix. Vous l'avez géré comment, ça ?
Eh bien, on s'est dit qu'en fait, tant qu'on ne nous prouvait pas que la fille de Vercingétorix n'existait pas...
Elle pouvait exister.
Elle avait, oui, c'est ça, elle avait existé.
J'adore, moi, votre audio est incroyable. Vous avez ce côté calme incroyable.
C'était marrant de mettre une petite note en bas d'image et de dire que les historiens étaient divisés sur le sujet. Ça paraît sérieux comme ça passe. Quoi.
Ce qui passe aussi, c'est qu'il y a un pisteur, un traître, nommé Adictocérix, qui a rallié la cause de César et qui cherche à capturer Adrénaline pour que César en fasse une romaine. Et ça existe vraiment. Hein. Les insoumis de l'époque, on essayait de les romaniser. C'était l'objectif de Jules César. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire avec Adrénaline. Donc, il va y avoir cette quête. Les deux Gaulois qu'on connaît, Astérix et Obélix, vont protéger Adrénaline et les Romains vont essayer de la capturer pour la romaniser.
Absolument.
C'est ça.
Voilà. C'était vraiment le système de l'époque. Ça permettait d'avoir un otage et de s'assurer qu'en fait, il y avait la paix dans les provinces conquises.
Et Adrénaline, elle fugue.
Non ! Les go !
Les Gaulois ! Non, c'est pas vrai !
Pour fuir, rien de mieux qu'un navire. Et on retrouve les pirates. Les pirates qui se trouvent à terre à un moment parce qu'ils vont chercher de l'eau douce. Et Adrénaline va tomber dessus et va entendre que ce sont des pirates. Donc elle leur dit, mais vous avez un navire ? Ils disent, non, on est à pied, on est à pied.
Et oui, parce que c'est une Gauloise qui arrive. Et...
ils en peuvent plus, des Gaulois.
Cours, homme, c'est risque ! Cours !
Il y a aussi une évocation écolo. Dans la mer, les Gaulos, sous-entendu les Bolos, jettent des amphores. Et les gamins constatent qu'on consomme et après on jette dans la mer. Absolument. Sans parler de la surconsommation de sangliers, ce qui rend fou Obélix. Mais vous aviez cette volonté aussi d'avoir un côté vert, Astérix vert.
Oui, toute proportion gardée, parce qu'au temps des Gaulois, bon, l'écologie, c'est pas non plus encore une préoccupation de pointe. Mais à la sauce gauloise, oui, les amphores qu'on jette partout. Et c'était surtout une façon de montrer que les ados s'opposaient un peu au mode de vie villageois habituel, quoi. Bon,
jusqu'au moment où ils goûtent à la potion. Et là, tout change. C'est vraiment une potion magique.
Mais comme tous les ados, quoi. Ils essaient quand même. Ils critiquent, mais enfin, bon.
Sauf que la potion, ils la critiquent aussi, hein.
Oui, bien sûr.
Ils disent, on ne sait même pas ce que le vieux met dedans. Si ça se trouve, s'adressant à Obélix, c'est ça qui t'a rendu obèse.
Oui, mais là, on se rend bien compte, en fait, c'est que ils ont pas droit à la potion, ils sont encore trop jeunes.
Ils sont frustrés,
ouais. Donc, ils sont pas contents, ils sont frustrés, quoi.
Non, Obélix, t'es tombé dans
la marmite étant petit. Ah ben, on saura. Allez, viens, il est fixe.
Comment vous les créez, ces histoires, tous les deux ? Parce que ben vous vivez à distance, en plus. Hein.
Ah oui, mais c'est lui qui les crée. Hein.
Ah oui, vous êtes aux États-Unis, Didier.
En fait, sur ce qu'il fait. Mm-hmm. Oui, moi, je vis aux États-Unis.
Eh oui, c'est compliqué, non ?
Non, pas maintenant. plus maintenant.
Il y a des côtés compliqués parce que des fois, on aimerait bien faire un petit mime pour expliquer comment on voit telle ou telle chose. Mais en même temps, on a rodé une sorte de méthode là.
Oui. Quand il y en a un qui travaille, l'autre dort. À cause du décalage horaire.
C'est très marseillais, redoutable. Ça, Didier.
Personne ne nous prend par surprise.
Ouais. Vous êtes des auteurs du Sud, quoi.
Ouais, voilà. Tout à fait.
Vous revendiquez.
Mais en fait, c'est bien quand on fait Astérix. Parce que ce soit au Texas ou en Ariège, on vous embête pas trop.
Ouais. Puis c'est vrai que l'univers d'Astérix est très proche de l'univers de Pagnol. Moi, je trouve. Hein.
C'est la de seule l'univers de Pagnol.
Ah ouais. Oui, c'est la seule correspondance que j'ai vraiment au niveau des rapports, le côté humain qu'il y a dans cette série. Tu retrouves pas ça dans les autres BD.
Oui, c'est vrai, avec un côté familial aussi.
Tout à fait. Ouais.
Les souvenirs, l'enfance, la morale, l'apprentissage.
Ouais. Il y a ça, il y a la ruralité. Moi, qui vis dans une zone plutôt rurale, j'y vois des points communs avec l'esprit villageois.
Oui.
Le Sud-Ouest, même l'esprit de résistance. Donc finalement, bizarrement, Goscinny était un homme des villes, mais il avait su créer une sorte de village. Pas idéal, parce qu'on se fout des gifles, mais...
Bah, tu imagines Rému en Abraracourcix ?
C'est incroyable. Vrai que c'est un peu de cet acabit de Pagnol, ouais.
Oui, tout à fait.
T'as pas tort.
Tout à fait.
Les auditeurs vont être surpris de vous entendre, Jean-Yves Ferré, Didier Conrad. Parce que, non, mais c'est vrai que quand on lit Astérix, même quand on entend Uderzo, c'est bizarre.
Ah oui.
Et quand on vous entend, vous formez un duo très particulier, qui a l'air très chaleureux. Vous avez l'air de vous entendre parfaitement. Ouais. Je suis sûr que même, moi, j'ai pas connu cette époque, malheureusement. L'époque Goscinny-Uderzo en interview, ça devait être un peu comme ça. Ouais. Vous avez un côté un peu au-dessus de tout ça, alors que ça vous dépasse, mais pas tant que ça, en fait.
On est un peu obligé, hein.
Ben, on est les seuls à devoir, en fait, plonger à l'intérieur de cet univers et voir comment c'est fait, comment ça fonctionne. En même temps, on a été imprégné de ça. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait de la BD. C'est Astérix, c'est sûr.
Eh oui.
Donc, se retrouver dedans, c'est assez extraordinaire comme.
Mais on nous donne le droit de jouer à ça, quoi, finalement. Et peut-être que cette forme de BD, il fallait la confier effectivement à des types comme nous, un peu tordus.
Il faut être tordu pour faire Astérix.
Ah, complètement.
Ouais. Bon, vous assumez, c'est bien.
Oui, tout à fait là.
Ah bah oui, de toute façon, aujourd'hui, quand vous faites de la BD traditionnelle, entre guillemets, avec une espèce d'ambition quasi littéraire comme à l'époque, vous êtes tordu.
Merci beaucoup. Astérix, c'est un monument. On a envie de continuer à le lire et avec vous, on continue le plaisir car c'est très fluide, très fidèle et vraiment, vraiment très drôle. Merci beaucoup Jean-Yves Ferry.
Merci.
Merci Didier Conrad. Astérix, tome 38, La fille de Vercingétorix vient de sortir et on vous le conseille vivement. À bientôt Jean-Yves, à bientôt
Merci.
Didier. Merci.
À bientôt.
Allez, la chronique des libraires, deuxième partie, avec en France Mathieu Colombe, fan de BD d'Astérix aussi, mais qui a un coup de gueule là.
Oui, et c'est un coup de gueule sur la sortie de Sapiens en version illustrée. Alors pourquoi ? Parce que ça fait quelque temps maintenant que les divers acteurs du livre demandent aux éditeurs de raccourcir le temps de sortie d'un livre de poche. Et donc en réponse à ça, pour Sapiens, qui se vend très très bien, donc on a une sortie illustrée, donc du coup elle est un petit peu plus chère. Du coup les gens qui n'ont pas les moyens, par exemple, de s'acheter le Sapiens en grand format, eh ben ils vont encore attendre. Et ceux qui l'ont déjà acheté, ils vont vouloir avoir la belle version avec les illustrations dedans, donc ils vont le racheter une deuxième fois.
Ouais.
Quelque part, j'ai l'impression qu'on prend un peu nos lecteurs, parfois, pour ce qu'ils ne sont pas.
Ça fait le commerce des libraires en même temps, c'est étonnant que vous ayez ce coup de gueule, mais c'est bien, c'est honnête, c'est intègre.
Que, enfin, moi, j'ai fait ce métier-là pour que les gens lisent et qu'ils lisent des choses intéressantes, pas forcément pour me faire de l'argent, sinon j'aurais pas fait vraiment libraire.
Très bien. Bah, c'est tout à votre honneur. Bravo, Mathieu, oui.
Et attention, hein, c'est une pratique qui est généralisée. Sapiens, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. Soyons bien d'accord, hein.
Ouais, il faut sortir les livres en poche pour les rendre accessibles à tous et pas en faire des éditions de luxe quand le livre a très bien marché, c'est ça le message.
S'il vous plaît.
Si j'ai bien compris. Merci à vous, Josiane Letourneau. Au Canada, un coup de gueule ou un coup de cœur?
Ben, c'est un coup de cœur pour le livre de Marie-Ève Thuot, le premier roman qui s'appelle La trajectoire des confettis. En fait, La trajectoire des confettis, c'est surtout celle d'une famille à travers son passé, présent et futur. La galerie de personnages originaux, voire excentriques, mais toujours crédibles qu'a créé l'autrice, nous raconte le couple et la famille québécoise à travers ses tabous. Parce que les tabous autour du sexe, du couple et de la famille au Québec, bien, disons que c'est dans cet héritage social particulier, mêlé à nos défis contemporains, que va jouer l'autrice pendant un solide 600 pages. Et
ah oui.
C'est fait avec intelligence, humour et beaucoup, beaucoup de nuances. C'est vraiment à lire.
La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot aux éditions Les Herbes Rouges. Merci Josiane. Avant de parler du roman suisse de Roland Buty qui porte un regard sur notre ignorance du passé de nos parents, mais aussi sur la politique suisse de l'accueil des étrangers, voici le nouveau titre de M dans la librairie francophone.
Plus la maison, je ne retrouve plus la raison. Où est passée ma thérapie? Je peux te chercher dans le miroir, réouvrir au milieu un tiroir. Où est passée ma thérapie? J'entends au loin le chant de ton âme, une voix qui me dit. Croise le bonheur, si vite arrivé, si vite reparti. Happy. J'oublie le chat à la souris, cours plus après le bonheur. Quand il est devant toi, on n'a que du sourire. Voilà ma seule terre. De ton absence, la vie m'apprend et je prends conscience que tu es pourtant la juste ici, si près de moi. Quand je me dis oui chaque fois.
C'était M avec son nouveau titre, Thérapie.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Roland Buty est sur notre plateau pour Grand National, paru chez Zoé. Votre précédent roman, Roland Buty, Le Milieu de l'Horizon, prix du roman des romans, prix suisse de littérature et prix du public RTS, vient d'être adapté au cinéma avec Laetitia Casta. Vous êtes content de ce film ?
Je suis très content, oui, c'est un très très beau film avec des acteurs assez extraordinaires. Certainement c'est une lecture du livre, une interprétation. Moi j'ai pas du tout collaboré, j'ai donné le livre comme ça pour que la réalisatrice en fasse ce qu'elle veut avec la scénariste, et du coup c'est une œuvre à part entière c'est même une découverte pour soi de voir le film.
Alors c'est un film assez délicat, très sensible aussi, comme Grand National, votre nouveau roman. Vous explorez la méconnaissance du passé de nos parents, notamment avec votre personnage qui retrouve sa mère dans un grand hôtel après sa fugue alors qu'elle vivait dans une maison de retraite. Il se rend compte qu'il ne sait rien de la jeunesse de sa mère.
Bah oui, parce qu'il est parti en apprentissage comme paysagiste à l'âge de 16 ans. S'il retranche les quelques années où il était très enfant, il a peut-être vécu 10 ans en conscience avec sa mère, guère plus. Et il va la retrouver dans un palace sur les hauts de Montreux. Et quand lui va discuter avec le directeur et qu'il fait un peu le calcul dans sa tête, il y a une infirmière qui passe chaque semaine, puisque la clientèle est aussi un peu âgée dans ses palaces. Il fait le calcul, ça lui coûte moins cher que la maison de retraite, et il décide de la laisser dans le palace un certain temps.
Bon, il a un moment de son existence, en tout cas au milieu de sa vie, va-t-on dire, où il est rattrapé par sa famille, celle qu'il a tenté de construire et celle de ses origines. Et on est tous confrontés à cela un jour. C'est la question de l'échec ou de la réussite familiale.
Oui, peut-être, mais en somme, le drame du narrateur, c'est que parallèlement, sa femme est en train de le quitter. Mmh. Et donc, il se rend compte que peut-être la femme avec qui il a vécu devient une étrangère, ouais. Que sa mère était aussi largement une étrangère pour lui. Mmh. Et effectivement, le livre tourne autour de cette question de qu'est-ce que c'est être étranger, parce qu'actuellement, il y a un employé du narrateur qui, lui, est un réfugié des Balkans.
Du Kosovo.
Qui, lui, est un réfugié politique. Et le narrateur est paysagiste et s'occupe des parcs de riches qui, en somme, viennent s'installer en Suisse. Mais en même temps, son employé, lui, il vit dans une autre chose qui me fascine, moi, beaucoup, c'est les jardins familiaux.
Oui.
Et on a, en Suisse, comme partout, ces jardins ouvriers, maintenant jardins familiaux.
Une sorte de jardin solidaire,
voilà.
Avec des cabanons.
Voilà, c'est-à-dire que c'est la ville qui donne des petites parcelles, elles sont très, très réglementées chez nous, c'est toujours la même taille, avec l'eau courante, et on a le droit de faire un cabanon, mais pas trop grand, on peut pas y habiter, et ça me fascine.
Bon, on va voir du côté de nos libraires, Roland Buty, s'ils ont apprécié votre livre. La Suisse, la France, la Belgique ou le Canada, vous voulez commencer par qui ?
C'est égal, vraiment. Alors,
choisissez.
Préférence. Alors, le Canada.
Le Canada. Allons-y, Josiane Letourneau.
Eh bien, quand j'ai amorcé la lecture de votre roman, Roland Buty, les premières lignes qui m'ont semblé grises et mélancoliques ont très vite révélé, en fait, un véritable petit bijou de vulnérabilité, de profondeur et d'humour. Deux choses, en fait, m'ont particulièrement émue dans votre livre, l'authenticité et la beauté désarmante des scènes d'intimité. Et la façon dont les corps de vos personnages racontent leur propre histoire. Et ça, je pense, j'en étais vraiment charmée.
Bien, la France avec Mathieu Colombe, qu'en pensez-vous ?
Eh bien oui, c'est un joli texte, il y a des personnages attachants, une belle histoire bien écrite et une belle générosité dans l'écriture. Bon, on va un peu se perdre dans les transitions, mais vraiment rien de bien grave. Il y a aussi une grande richesse qui se dégage à la lecture de ce texte, tant dans la diversité des thèmes abordés que dans le partage du souvenir.
Le partage du souvenir, c'est vrai ça, qu'il y a beaucoup de souvenirs dans ce livre, Roland Buty. Et vous montrez d'ailleurs ce contraste entre ces grands hôtels de luxe qui ont accueilli des étrangers fortunés pendant la guerre, et aujourd'hui ces parcelles dont vous parliez, les jardins solidaires, qui tolèrent tout juste les étrangers en attente de régularisation, en tout cas dans votre roman. La Suisse choisit en fonction de ses intérêts économiques ?
Non, moi je dirais pas ça, vraiment pas. La Suisse est un pays qui a un très très haut taux d'étrangers, ça doit être à peu près à 25%. Et comme on a une situation économique qui est relativement bonne, je trouve que les choses se passent plutôt bien. Je dis pas qu'il n'y ait pas de problème, mais globalement, on a plutôt un bon accueil. Et je pense que ça découle aussi du fait que la Suisse n'est pas une nation, que la Suisse est un État qui contient déjà trois nationalités, des Italiens, des Allemands et des francophones, et qu'au fond, le seul amour qu'on peut avoir de la Suisse, c'est l'amour des institutions. Mais on ne peut pas être nationaliste suisse.
Oui, mais vous dites quand même en filigrane que la neutralité suisse pendant la guerre a été plus un choix économique qu'un choix politique.
Non, c'est vous qui faites cette lecture. Mais...
Non, c'est ce que vous dites.
Ah, d'accord.
C'est clairement ce que vous montrez.
Ok, d'accord.
Avec ce grand hôtel
qui
s'est servi justement de sa clientèle pour, à l'époque, pouvoir s'en sortir et avoir, dans les années de la guerre, avoir toutes les réserves possibles pour séduire justement une clientèle riche choisie.
Oui, ce sont des réfugiés de luxe, effectivement, qui sont dans ces hôtels où on les accueille, effectivement. Alors, c'est peut-être métaphorique, effectivement, de plus largement la politique de la Suisse, qui était une réelle politique qui consistait effectivement à faire de les affaires un peu avec tout le monde pour rester en dehors de la guerre.
C'est un sujet tabou, ça, aujourd'hui,
non,
en
non,
Suisse ?
Non, c'est pas du tout un sujet tabou, parce qu'on a eu des grandes enquêtes officielles, le rapport Bergier, par exemple, et tout a été vraiment historiquement démontré, sorti, et tout est clair.
Dominique Bressou, avez-vous aimé ce livre signé Roland Buty ?
J'ai beaucoup aimé, vraiment. Avec ce livre, moi, j'ai eu l'impression de me promener dans une histoire avec, à la main, un appareil photo aux multiples objectifs. Le grand angle pour le décor, le téléobjectif quand l'auteur veut isoler un personnage de son entourage, le 50 mm pour saisir les situations sur le vif, et enfin, l'objectif macro pour les détails révélateurs. Ce roman, c'est un moment de vie de personnage pris sur le vif par un photographe expert en cadrage et qui s'est fait faire jouer l'ombre et la lumière à merveille.
Vous êtes un peu photographe, Dominique, non ?
Oui, j'aime bien la photo. Ouais,
Roland Buty, c'est ça
parfait.
C'est un peu ce que vous
avez voilà, fait. Je pense que j'ai une écriture assez visuelle qui travaille par scène, effectivement, c'est assez visuel.
Il y a cette dame dans votre roman, Madame Jacquet, qui est la voisine de chambre de la mère du narrateur, qui dit « J'aime les promesses, je ne vis que de cela maintenant ». J'attends, mais rien ne vient. Alors j'attends la prochaine promesse. Et en fin de compte, je ne regrette rien parce que j'ai consacré tout mon temps à espérer. La plupart des gens vivent ainsi.
Oui, sûrement. Et le livre, c'est aussi l'histoire de la mère qui n'a pas eu la vie qu'elle voulait avoir.
Mais ils sont tous en train d'espérer, vos personnages.
Bien sûr, il y a toujours de l'espoir.
Carlo espère retrouver sa compagne, votre narrateur. Agon espère une nouvelle vie, le réfugié. Et puis, la mère de Carlo, elle espère renouer avec son passé grâce aux souvenirs avant de quitter ce monde, en fait.
Voilà, et ce qui les aide à espérer et attendre, c'est les petites boules de haschich avec la confiture de coin.
Mais alors ça, c'est autre chose.
Qui les détend.
Oui, ça c'est autre chose. Oui, les petites boules que donne le narrateur à sa maman.
Oui.
Fabriquées par Agon. Voilà, qu'est-ce que ça vient faire là? Mais je sais pas, mais en tout cas c'est...
Ah, mais parce que l'ami dont je me suis inspiré m'a parlé de ça, effectivement. Et eux, ils se disent, mais voilà, ça c'est la bonne solution pour les maisons de retraite, le cannabis thérapeutique sous forme de petites pâtisseries.
Hein. Docteur Ruffin, qu'est-ce qu'il en pense, docteur Ruffin?
J'aime beaucoup les pâtisseries. Mais...
Bon, il y a ces traces du passé, Roland Buty, qui restent en nous. Et il y a un sujet très intéressant que vous abordez. Il y a des moments que l'on regrette, alors que parfois, ils ont été difficiles à vivre. Et pourtant, avec le temps, on finit par les regretter, ces moments-là. Comment vous l'expliquez, ça?
Ah, c'est certainement parce que le temps passe, et que le simple fait que le temps passe nous fait transformer ce qu'on a vécu en quelque chose de forcément mieux que dans la réalité ou au moment où on l'a vit. Et donc ça, c'est un peu le miracle des souvenirs.
Le mot de la fin, c'est pour un libraire, on va voir sa lecture justement, avec Déborah Damblon qui est en Belgique.
J'ai beaucoup, beaucoup aimé le côté charnel de votre roman. Et puis la façon douce et délicate que vous avez de prendre votre temps. Et puis de nous forcer à prendre le nôtre. De nous emporter dans ce que j'ai presque envie d'appeler un roman d'apprentissage. Et je trouve que vous lire, eh bien, ça nous aide à poser un joli regard sur les gens, sur les choses. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien.
On va rester sur cette notion de bien-être grâce à votre livre. Merci beaucoup Roland Buty.
Merci à vous.
Grand National est paru chez Zoé, un livre qui, vous l'avez entendu, a séduit tous nos libraires. Et les deux romans de l'émission aujourd'hui ont séduit tous nos libraires. Ils sont très sages cette saison. Merci à eux. Merci à vous Roland. Merci Jean-Christophe Ruffin. À bientôt.
À bientôt.
Soignez-vous.
Merci.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone avec le groupe français MPL.
Nous, on était jeunes à l'époque, on avait peur de rien, il en fallait pas plus pour qu'on s'emballe. On a monté une équipe, on a trouvé un bateau pour résoudre le mystère abyssal. Quand le grand jour est arrivé, tout était prêt, on a largué les amarres. On a navigué jusqu'au trou bleu, guidé par le sonar. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'à cela coule douce. L'un de nous serait désigné au dé pour la plongée. Un double 6 est sorti, on lui a rapporté toutes les pièces du scaphandre et puis elle est partie. Au début, elle nous parlait par radio. La descente semblait belle, mais assez vite, on a perdu sa trace. Et les seuls signes de vie que nous recevions étaient les bulles qui rejoignent la surface. On s'est retrouvés seuls avec nos questions insondables. Combien de temps va-t-elle passer là-bas? Est-ce qu'elle va y rester? Pourquoi les autres ne parlent pas? Pourquoi c'est pas tombé sur moi? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que ça doit venir de moi? On attendait le gong, et les heures étaient de plus en plus longues. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'à cela coule douce. Sous les pontons, et le temps a repris son cours. On a romancé un peu, c'est vrai, mais le souvenir de cette expédition nous poursuivra toujours. On voulait faire un peu de place aux mystères et aux aventures. Qui veut voyager loin ménage ses blessures.
MPL avec le mystère abyssal, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Anna Buis, avec Julien Dumont à la technique, à la rédaction, Jean-Philippe Verret, avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teuchère en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, nous serons avec Marlène Jobert, Carmen Maria Vega et Nadine Monfils. N'oubliez pas la deuxième saison de la librairie francophone version télé à partir de ce samedi soir sur RTBF La 3, lundi sur RTS 2 et mercredi sur ICI RTV au Canada, puis la semaine prochaine sur TV5 Monde. Bonne semaine à vous, bon week-end, salut.